Bonsoir, État généraux de la justice, la liberté des religions face à la prolifération des églises était l'une des thématiques au centre du débat lors de ces assises lundi 11 novembre 2024. Selon les panélistes et responsables des quelques communautés religieuses, le chômage est l'une des causes qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes des fidèles. Cette situation occasionne la cacophonie constatée dans ce secteur. Comme remède, le représentant légal de l'église de réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses, l'archevêque Ejiba Yamapia propose au gouvernement de multiplier les efforts dans le domaine de la création d'emplois en vue de contenir cette prolifération. Il y a quelques mois, dans un communiqué, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux avait pris une série de mesures pour réguler ce secteur. C'est notamment l'obtention d'un permis de culte délivré par son ministère et qu'aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Quelles pourraient être, selon vous, les causes de la prolifération des églises en RDC? Que faut-il pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Nous en parlons ce soir avec l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia. Il est représentant légal de l'église de réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuses. Archevêque Évariste Ejiba, bonsoir. Archevêque Ejiba, on me signale que Saline a coupé. On va essayer de le rappeler. Aussi avec nous dans ce débat, Michel Bissa, professeur à l'Université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, d'un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, bonsoir.
Bonsoir madame la journaliste et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Oui, il vient de nous rejoindre dans ce studio de Radio Okapi, c'est maître Germain Mopassa Runda, il est conseiller et expert au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Maître Germain Mopassa, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous êtes déjà très très nombreux auditeurs de Radio Okapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Mouroula Katwire Medi depuis Kamagnola, territoire de Walungo Sud Kivu. Il faut absolument réguler ce secteur. Aujourd'hui, vous trouvez dans un quartier de 500 habitants plus de 600 églises qui sont placées de 5 à 10 mètres de distance. À Kisangani dans la province de la Tchopo, vous nous trouvez sous la 94.8. Et si vous êtes en dehors de la RDC, rejoignez-nous sur www.radiokapi.net, sur DSTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Merci de vous abonner massivement à la chaîne WhatsApp de Radio Okapi en cliquant sur le lien de la chaîne publiée sur nos pages ou encore en scannant les QR codes. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le chômage, identifié comme l'une des causes de la prolifération des églises en RDC, c'est ce qui ressort du débat sur la liberté des religions face à la prolifération des églises, organisé lundi 11 novembre 2024 lors des travaux des États généraux de la justice. Pour les panélistes et responsables des quelques communautés religieuses, c'est ce qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes des fidèles. Arcel Nous en dit plus.
Lors des travaux des États généraux de la justice en date du 11 novembre 2024, le chômage est identifié comme l'une des causes de la prolifération des églises en RDC. Pour pallier à ces problèmes de prolifération, l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia propose de doter les confessions religieuses d'outils juridiques de régulation et de sanctions en cas de non-respect de règles et de limiter le nombre d'églises par avenue. De son côté, Monseigneur Donatien Cholet de l'Église catholique met l'accent sur les défis dans l'exercice du culte en RDC. Il préconise la formation des hommes de Dieu dont le but, explique-t-il, d'éviter qu'on se retrouve avec des pasteurs charlatans dans la société. Pour rappel, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait annoncé dans un communiqué publié le 20 juillet que seuls les organes régulièrement constitués et détenant une personnalité juridique sont éligibles. Tout représentant légal, fondateur ou visionnaire au ministre du culte doit se faire identifier afin d'obtenir un permis d'exercice de culte, précise le ministre.
Merci, Arcel Kajourou. Est-ce que l'archevêque Évariste Djiba est en ligne? On me dit que sa ligne ne passe plus. On va insister. On espère qu'on va l'avoir dans cette émission. Maître Germain Mopassa Hunda, vous êtes conseiller et expert au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Il y a eu ce débat lundi 11 novembre 2024 lors des travaux sur les états généraux de la justice, un débat autour de la prolifération des églises. Il y a eu plusieurs pasteurs qui étaient présents, qui se sont succédés, qui ont analysé, qui ont donné les causes de cette prolifération. On a parlé entre autres du chômage. On sait que le ministre de la Justice avait pris une série de mesures pour réguler ces secteurs. Est-ce qu'on en est?
Merci beaucoup, madame. Pour l'intérêt que vous accordez, spécialement aux réformes entreprises par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, que je salue, maître Constant Mutamba Tungunga. Et premièrement, nous lui rendons hommage pour le courage et pour sa détermination afin de restaurer notre justice et aussi d'établir un état de droit. Alors, comme il s'agit de la question des églises et spécialement la prolifération des églises dans notre pays, cette question a été débattue lors des états généraux, comme vous le dites, et aussi spécialement le homme de Dieu en parlait du chômage. Mais sinon, je dois ici vous dire que d'emblée, ce secteur-là des associations, parce que une église ou une confession religieuse, c'est une association sans but lucratif, une ASBL qui est gérée par le ministère de la Justice via la deuxième direction, qui est la direction des cultes et associations. Alors, à l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, il a tout de suite diagnostiqué le problème, un sérieux problème, avant d'arriver au chômage, il a trouvé qu'il y avait un fléau. Et ce fléau s'appelle F92. Et n'importe quel ASBL pouvait se procurer du F92 comme autorisation.
Alors, c'est quoi le F92 pour les personnes qui ne savent pas de quoi vous parlez?
Le F92, c'est justement un fléau. Fléau baptisé fléau 92. Et ça n'a aucun fondement juridique au sein du ministère de la Justice. Et c'est une émanation du ministère des archivages, le nom va venir, c'est une sorte d'archivage au fait. Donc ça n'a aucun fondement au sein du ministère de la Justice.
C'est un document qui ne sert à rien.
Ça ne sert à rien et ça a été baptisé accusé de réception. Donc si vous lisez sur F92, c'est écrit accusé de réception. Et évidemment, les gens avaient l'habitude de venir au ministère de la Justice pour notarier, légaliser leur statut. Et une fois légalisé, on leur donne l'accusé de réception qui est F92 et qui était toujours accompagné d'une lettre intitulée « Observation ». Alors, dans cette lettre-là, observation, c'est comme une sorte d'accusé de réception détaillé, où on invite le requérant de revenir au ministère pour compléter leur dossier afin de se procurer de la personnalité juridique. Alors, voilà comment ces associations ne revenaient pas parce que ils ont trouvé que voilà, l'F92 leur donnait la possibilité de fonctionner provisoirement. Alors, avec ces documents, ils ont mal interprété la loi en disant que, dépassé 6 mois, le F92 devient une personnalité juridique. Alors, voilà comment ils ont créé leur passerelle afin de fonctionner illégalement. Et c'est là aussi à créer, alors, plusieurs associations sans but lucratif, que je peux appeler les ASBL, et plusieurs églises par ricochet. Parlons de la question du chômage. Ça, c'est un problème, bien sûr. Vous venez de le dire. Un beau matin, un jeune peut se réveiller et qui n'a pas d'emploi et qui a sa Bible et qui réunit 2, 3, 4 personnes, 10 personnes, 20 personnes, afin de collecter quelques offrandes et se trouver de quoi manger. Et ça aussi, c'est ça même le problème aussi dans ces systèmes-là, où on trouve maintenant des églisettes partout. Et voilà la question qui a été débattue aussi lors des États généraux. Et
alors,
voilà,
je reviens sur ma question. Le 20 juillet dernier, le ministre avait pris une série de mesures, notamment que les églises ne pouvaient pas s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Le ministre avait, c'était l'obtention, il devait obtenir un permis de culte délivré par les ministères, je parle du pasteur, hein, délivré par les ministères. Est-ce que ces mesures sont respectées aujourd'hui, Maître Germain?
Merci, madame. Avant de répondre directement, je dois vous dire que suite, après la suppression du F92, le ministre a mis en place une commission multisectorielle, chargée donc d'assainissement et d'encadrer ces secteurs-là. Et parmi les résolutions, il y a eu cette résolution de la mise en place d'un permis d'exercice de culte. C'est pour identifier, gérer les effectifs et aussi numériser ces secteurs-là. Ben, aujourd'hui, nous sommes en processus. Nous sommes en processus et bientôt, nous allons lancer l'identification et la délivrance du permis d'exercice de culte.
Mais les autres mesures sont-elles appliquées?
Justement, il y a des mesures comme toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise par sa recevabilité aux conditions pertinentes de la loi. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous venez au ministère de la Justice et Garde des Sceaux, on ne reçoit plus le document ou le dossier incomplet. On ne reçoit que le dossier que répondent aux exigences de la loi. Et on vous donne une récépissé. Et à ce moment-là, nous sommes tenus à vous octroyer la personnalité juridique. Il y a aussi une résolution où il y a aussi des mesures comme ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église ou une communauté régulièrement constituée et détentrice d'une personnalité juridique. C'est-à-dire, on a constaté qu'il y avait des églises qui fonctionnaient sous couvert. Parce que je vais vous donner un exemple, je suis de l'ECC, 30e communauté, et je suis couvert de la personnalité juridique de l'ECC ou de l'RSC, ainsi de suite. Donc, c'est comme dans un regroupement politique, madame. Aucun parti politique ne peut être membre d'un regroupement politique si ce parti politique n'est pas régulièrement constitué. Alors, c'est la raison pour laquelle nous aussi nous sommes dit que voilà, niet, des églises ne peuvent pas venir travailler sous couvert. Et il y a aussi des mesures de la distanciation, 500 mètres. Ces mesures-là, vous savez, nous légiférons pour le futur. Et aujourd'hui, tout le chef de division et nos services sont instruits que aucune confession religieuse ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres avec une autre confession religieuse. Sinon, il y a un sérieux problème dans nos avenirs et un problème même pour nos enfants qui n'arrivent plus à étudier avec la nuisance sonore et c'est compliqué.
Mais cette question n'est pas respectée. Est-ce que vous avez fait le suivi, vous faire une évaluation? Parce que si vous descendez à la cité aujourd'hui, c'est, les églises sont presque voisines, hein, les unes des autres.
Oui, justement, c'est ce que je viens de dire. Nous légiférons pour le futur, je veux vous dire.
Donc, ça veut dire quoi, vous légiférez pour les futurs? Ces mesures ne seront pas appliquées maintenant, c'est ça?
Si, dès que le ministre a signé, les mesures sont appliquées.
Mm-hmm. Mais c'est depuis le mois de juillet. Hein?
Justement, ben, vous voyez, il y a d'autres églises qui détiennent déjà des certificats, des droits de propriété Et il y a beaucoup c'est transversal. La question, elle est transversale. Est-ce que vous allez déloger, vous allez détruire, alors que la personne a un droit de propriété?
Mais en prenant cette décision, le ministre, on ne savait pas qu'il y avait des églises qui se retrouvaient dans ce cas.
Mais justement, c'est ce que je vous dis, cette décision-là limite, c'est-à-dire stop. Donc aujourd'hui, aucune église ne peut venir s'installer à côté d'une autre église. Aucune, alors. Vous pouvez vérifier, aucune. Mais il y a des églises, c'est une situation que nous avons trouvée, bien sûr. C'est la continuité des affaires, mais nous sommes en train de chercher comment éradiquer cette situation. Mais aujourd'hui, aucune église ne peut venir s'installer à côté d'une autre église.
Professeur Michel Bissa, vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. La prolifération des églises, c'est un terme ou une thématique qui était au centre des travaux des États généraux de la justice. On a invité plusieurs ministères, ministres des lieux, je veux dire, plusieurs pasteurs, plusieurs communautés religieuses pour parler de cette question, pour se démontrer. Bon, afin de réfléchir ou donner les raisons ou les causes de la prolifération des églises aujourd'hui en RDC, comme je venais de le dire, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Comment vous expliquez cette prolifération des églises en RDC, professeur Michel Bissa?
Merci beaucoup, madame la journaliste. D'abord, la première chose, je voudrais préciser que cette question de la prolifération des églises a fait l'objet d'une thèse de doctorat et d'un mémoire de DEA qui doit être défendu bientôt à l'université de Kinshasa, dans la faculté de sciences sociales, par un doctorat qu'on appelle Bienfait Kambali. La question telle qu'elle est posée aujourd'hui au niveau de l'État et au niveau surtout des États généraux de la justice, le ministre semble être plein de bonne volonté, mais malheureusement, il ne pêche pas les approches et la manière de faire. Ce serait vraiment dommage de pouvoir les dire que les États généraux de la justice vont accoucher des résolutions inappliquées et inapplicables parce que, justement, on n'a pas suivi la méthodologie qu'il fallait. Et pourtant, dans ce pays, on a eu les États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire avec une méthodologie bien réfléchie. Au niveau de l'État, on pouvait s'y référer pour avancer. Tenez, madame, première chose, la question qu'on appelle la prolifération des églises n'est pas une question qui peut être analysée en solo. Il fallait l'analyser de manière totale et globale dans ses causes. Mais nous avons l'impression qu'au niveau du ministère et au niveau de ceux qui se sont prononcés comme autorité des églises de réveil, il regarde les conséquences de la prolifération au lieu d'en regarder les causes. Quelles sont les causes, madame? Aujourd'hui, dans notre pays, on a conduit les Congolais depuis 1960 à n'apprendre à créer que cinq choses. Ces cinq choses, c'est d'abord les partis politiques, les ONG, les églises, les écoles et les universités. Mais nous n'avons jamais appris aux gens à créer les industries et les entreprises pour produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Si vous regardez partis politiques, ONG, églises, écoles, universités, en majorité, ils commencent avec la procédure de création des ASBL. Mais en réalité, en sous-bassement, c'est la culture de la cueillette, c'est la culture du ramassage. Et aussi, c'est le fait qu'il n'y a que là, dans ces filières, que les gens peuvent s'enrichir infiniment. Dans les églises de réveil, dans les ONG, dans les partis politiques, le point commun, c'est une masse de personnes qui ont échoué à réussir par le travail et qui vendent du vent, qui volent, qui extorquent en réalité les gens. C'est à ce niveau-là que le ministre de la Justice a raison de vouloir normaliser, de vouloir contrôler. Mais vouloir contrôler seulement les églises, plusieurs vous diront que les églises sont en réalité des ONG. D'autres vous diront que leur église sont en réalité des partis politiques. N'oublions pas que nous avons des partis politiques à caractère religieux, comme Bundu Jamayala. À un moment donné, on ne sait pas s'ils sont églises ou s'ils sont partis politiques. Nous avons des églises qui vous diront qu'ils sont les filières des écoles ou des universités, où il y en a plus de 1000. Donc là, il y a un sérieux problème. Alors, dans ce que le conseiller du ministre vient de dire, il y a quand même deux choses à préciser, madame. Lorsque le conseiller du ministre dit que F-Nonandais, c'est un document qui n'a pas un fondement juridique, que c'est un accusé de réception, oui, c'est un accusé de réception. Mais pourquoi sommes-nous arrivés là? C'est par rapport à la lenteur administrative. À partir du moment où les ONG, les églises et toutes sortes d'ASBL, par milliers, venaient demander la personnalité juridique, alors que la procédure fait qu'avant qu'on vous donne la personnalité juridique, vous devrez avoir un arrêté d'avis favorable de votre ministère sectoriel. On était arrivé à dire que lorsqu'on a cet accusé de réception et qu'il y a une lenteur administrative qui continue au-delà d'un certain délai, alors on peut ouvrir même des numéros de compte bancaire et exister avec un Flonandais. Et donc, en réalité, le ministère devrait commencer par résoudre le problème de la léthargie administrative, de se regarder d'abord soi-même avant de regarder les administrés. Deuxième élément que je voulais préciser, lorsque le conseiller du ministre dit que certaines de ces églises ont la propriété foncière, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement foncier, il ne peut plus dire que ces structures n'ont pas de personnalité juridique, parce que pour ouvrir, avoir un certificat d'enregistrement juridique au nom d'une personnalité morale, comme une église, il faut au préalable exister. Et donc là, il y a une sorte de contradiction. Alors, dans le fond, madame, la question ne devrait pas concerner les églises, mais la question devrait concerner les lieux de culte. Et c'est là où nous entrons dans la problématique de la cartographie. Les lieux de culte, lorsqu'on dit 500 mètres, on ne peut pas retrouver l'église, faisons, attaquons-nous à quelle église? Les églises chrétiennes, les lieux de culte au sens où on a des mosquées, et aujourd'hui, n'oubliez pas, les études scientifiques montrent que, par exemple, entre Kinshasa et Kipuit, le nombre de mosquées qui se sont construites est largement supérieur au nombre des églises. Lorsque vous êtes dans la zone de Ringeti, au nord Kivu, et vous pouvez monter Ituri, Otuele, Bazuele, avec l'avènement du phénomène Mbororo, on a de plus en plus de mosquées qui se construisent, y compris dans des villages où il n'y a aucun musulman. Alors, cela pose des problématiques de la sécurité, et donc la question pouvait être abordée de manière large. Troisièmement, madame, ceux qui parlent du chômage sont dans une approche minimaliste, une approche simpliste. Le chômage n'est qu'une des conséquences d'un système que nous avons mis en place où les gens ne peuvent pas réussir par les entreprises et les industries. Que l'État commence à améliorer les entreprises et les industries, à améliorer la qualité de l'éducation. Il est attesté que partout où les gens sont suffisamment éduqués, le taux de la foi est proche de la folie, proche des masses, des foules. Ce taux-là va diminuer des soins. Cela est aussi un indicateur du niveau d'éducation générale de la population. La question de la cartographie des lieux de culte, madame, c'est une question sensible, c'est une question majeure qui touche notamment à la problématique de la cohésion nationale. C'est là où, dans une étude scientifique vraiment rigoureuse menée à l'Observatoire de la gouvernance, il a été attesté que nous devons aborder cette question de la cartographie, pas seulement des églises, mais aussi des universités. Ce pays a plus de 1000 universités, ce pays a plus de 3000 écoles, primer, plus de 9000 humanités, cette problématique devrait être abordée dans un cadre global de la politique nationale de la cohésion. Et cette politique de la cohésion nationale doit avoir, entre autres piliers, la question de la justice distributive des ressources nationales.
Alors, professeur Bissa, est-ce qu'on doit conclure, après ce que vous venez de dire, votre analyse, est-ce qu'on doit conclure que la méthodologie utilisée par le ministère de la Justice, hein, en organisant ces états généraux de la justice, en faisant venir, en invitant les pasteurs, les hommes d'église à venir réfléchir sur les causes de la prolifération des églises en RDC, ne risque de ne pas donner les résultats ou les résultats escomptés.
Madame, j'ai discuté avec énormément de professeurs de droit dans plusieurs universités de notre pays et je peux vous dire, prenons rendez-vous même dans 6 mois, revenons ici, vous vous rendrez compte que ces états généraux ne produiront pas de résultats escomptés. Les résolutions sont superficielles. La qualité des participants, la majorité des étudiants, pose problème. La qualité de la méthodologie, les thématiques abordées ne sont pas ce qui devrait être fait. Les travaux n'ont pas été suffisamment préparés, suffisamment menés, et je peux vous assurer que c'est parmi les plus médiocres états généraux des secteurs de l'État qui sont organisés. Il n'y en aura pas, madame, comme résultat à partir du moment où on veut attraper un serpent par les milliers. Comment est-ce qu'on peut en arriver à discuter des églises? Mais madame, on a combien d'ONG dans ce pays? Nous avons combien d'églises dans ce pays? Avons-nous combien d'universités, écoles? Avons-nous combien de partis politiques? Toutes ces questions-là, tous ces domaines ne contribuent à rien, y compris sur le plan fiscal, y compris sur le plan de la construction de la cohésion nationale, Merci. Y compris au niveau de la réglementation. Mais vouloir s'en prendre à ces éléments-là, alors que c'est des éléments qui contribuent à occuper cette masse de gens qui ne font rien et qui sont sous-éduqués, alors qu'on n'a pas créé les industries et les entreprises pour les occuper, madame, c'est compliqué encore la situation davantage.
Merci, professeur Michel Bissa.
De l'université, il y a des études qui existent et qui ont analysé ce problème de manière approfondie.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Maître Germain, vous allez réagir à l'analyse faite par le professeur Bissa. On n'aura rien après ces états généraux.
Merci beaucoup, madame. Je pense que professeur Bissa, c'est un citoyen et c'est son opinion. Mais néanmoins, j'aimerais premièrement lui remercier pour l'intérêt qu'il accorde à ces secteurs de culte et associations et lui rappeler que conformément, parce que nous sommes le ministère de la Justice et nous parlons avec les textes, nous ne sommes pas des sociologues, nous sommes des juristes. Conformément à l'article 22 de la Constitution de notre pays, la liberté de culte est consacrée et c'est un droit fondamental. Donc, nous ne sommes pas venus aux états généraux de la justice pour discuter de comment nous allons réguler ou l'organisation des églises ou des aspects par ricochet. Mais nous sommes là pour diagnostiquer. Donc quand il dit que
diagnostiquer pour avoir quoi à la fin, qu'est-ce que vous recherchez?
Nous diagnostiquons et nous donnons de résolutions ou de réformes
pour réguler ces secteurs.
Et je dois rappeler au professeur que ce secteur est régi par une loi. Et c'est la loi 004 du 2001 qui régit ce secteur des cultes et associations. Donc, nous avons, s'il était là, s'il avait participé, lors de notre panel, il allait comprendre que j'avais dit, lors de ma présentation, que jadis, il y avait un problème d'obtention de la personnalité juridique. Il y avait, certes, lenteur administrative. Mais aujourd'hui, non seulement cette sorte de lenteur, mais il y avait un problème des tarifs. C'est-à-dire, les gens ne savaient même pas combien ils devaient payer. Il y a d'autres personnes qui pouvaient payer 3 000 $. Il y a d'autres personnes qui pouvaient payer 2 000, 5 000 $ pour obtenir la personnalité
juridique. Ça dépendait de la tête de celui qui venait demander le document.
Ah oui, vous voyez. Mais aujourd'hui, si vous passez à la deuxième direction, vous allez trouver que le prix sont affichés. Et sous l'impulsion du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba. Ce sont des réformes qu'il a apportées afin d'encadrer et de contourner ces systèmes-là. Aujourd'hui, le prix est connu. Et même dans notre site internet, si vous entrez, vous allez voir le prix est affiché et tout requérant, c'est que quand je passe, c'est pour payer. Et on va vous donner, et il ne peut signer s'il n'a pas vu votre bordereau de paiement. Et vous allez passer à la banque. Aujourd'hui, il a installé des guichets partout, même au niveau du ministère. Vous prenez votre bordereau, vous prenez au niveau de la DGRAD, note de perception, et vous payez à la banque. Donc ce système-là...
Ce système va aider à réguler le secteur.
Non, là je suis en train de répondre, il a parlé du lenteur administratif. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons essayé de résoudre cette question-là, de lenteur. Parce que le lenteur était dit que voilà... Les gens se contactaient du F90 parce qu'ils se disaient, ben voilà, ça coûte cher, ça traîne.
Donc aujourd'hui, ça traîne plus.
Et
c'est plus facile d'obtenir les documents.
C'est plus facile, bien sûr, qu'il y a encore d'autres conditions qui font que, voilà, par exemple, il a parlé de l'avis du ministère sectoriel. C'est l'une des conditions. Donc, avant d'obtenir la personnalité juridique, la personne doit aller d'abord obtenir l'arrêté du ministère sectoriel, par exemple. Tu vois, c'est l'une des conditions, mais cela n'est pas une condition de dépôt chez nous, au niveau du ministère. Dès que vous avez votre avis, vous venez, vous allez trouver les prix, vous payez, on vous donne la personnalité juridique. Et j'ai dit dans mon exposé que le ministre avait instruit 7 jours. Vous voyez. Je vais répondre aussi à ce qu'il a parlé du cadre. Il a parlé du cadre ou voire même de contradiction. Il a parlé de contradiction par rapport au certificat d'enregistrement. Donc nous ne parlons pas ici que des églises qui n'ont pas encore la personnalité juridique. Il y a plusieurs églises qui ont la personnalité juridique. Et quand on parle des églises, nous prenons juste en termes génériques. Nous avons des mosquées et tout ça, nous avons des salles de royaume, nous avons les lieux des cultes. Et il y a plusieurs églises ou confessions, je préfère parler de confessions.
Et ça concerne religieuses. Toutes les confessions religieuses.
Et justement, et je préfère parler de confessions religieuses parce que la loi ne parle pas des églises. La loi parle de la confession religieuse ou de l'association confessionnelle. Voilà le terme, madame. Donc, ici, la personnalité juridique, il y a d'autres confessions religieuses qui ont la personnalité juridique.
Mais concerne seulement Kinshasa, la capitale, ou même dans les provinces, ça devrait s'appliquer.
Même dans les provinces, le ministre, il est ministre national, il n'est pas ministre provincial. Donc, et dans les provinces, et les chefs de division sont inscrits.
Est-ce que ça sera facile?
Vous savez, madame, quand on a intitulé les états généraux de la justice, disons, on a posé une question, pourquoi la justice est malade? C'est parce que, réellement, la justice est malade, et le chef de l'État l'a dit. Et ce n'est pas avec du lait que nous allons guérir la justice. Nous devons piquer avec la quinine, comme l'avait dit le ministre d'État. Et ce n'est pas facile. Nous devons foncer. Et ça fait mal quand il y a des réformes. Je sais que ça fait mal parce qu'il y a plusieurs associations qui fonctionnaient avec des asbels. Mais ça fait mal. Mais nous devons réguler ces secteurs. Et je dois vous dire aussi quelque chose. C'est une question de la sécurité nationale. Vous savez, il y a des associations, pour ne pas parler seulement des églises, il y a des associations comme ça qui ne sont pas contrôlées. Et il y a, nous avons vu, même en parlant des églises, nous avons vu la cité Boudou du Congo, il y a les Mukungubile, nous avons vu des rebelles qui proviennent des églises. C'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir des financements pour combattre notre pays, mais ils s'appellent églises. Il s'appelle association ONG. C'est une question de la sécurité nationale. Donc, le ministre d'État, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, est venu et à son arrivée, je crois qu'une semaine après, il a supprimé le FNDD. Une semaine après la prise de ses fonctions.
On vous garde encore dans cette émission. On va ouvrir le standard pour prendre ces auditeurs qui veulent aussi donner leurs avis, leurs points de vue sur le sujet de ce soir. On va se rendre, on va aller à Luena, dans la province du Olomami, pour écouter cet auditeur.
Charles Mpoudika, à Luena, province du Olomami. La RDC est l'un des pays africains où les églises naissent comme des champignons. À mon avis, les causes de cette prolifération sont notamment le chômage et le manque d'une bonne réglementation en ce qui concerne la création et le fonctionnement des lieux de culte. Il suffit de créer des emplois avec une bonne rémunération. Toutes les églisettes se fermeront d'elles-mêmes. On pourra ainsi lutter contre les faux prophètes disséminés à travers les pays.
Professeur, brièvement, que pensez-vous du point de vue de Charles Mpoudika?
Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que je suis satisfait de l'évolution que je note dans les propos du conseiller. Effectivement, je l'ai dit ici qu'il y a beaucoup de bonnes intentions dans le chef du ministre Constant Mutamba. Et nous sommes contents qu'il ait donné un coup de pied dans la fourmilière. Au moins, ça nous permet de déballer un certain nombre de choses. Mais il reste un sérieux problème de méthodologie. Je suis d'accord avec le ministère sur la question du fait que les libertés de culte sont consacrées. Mais je n'ai pas compris quand il dit qu'en organisant les états généraux, ils ne veulent pas organiser, mais ils veulent diagnostiquer. Mais on fait les diagnostics justement pour pouvoir organiser. Et quand on pose la question de la cartographie, pas 500 mètres et tout, là, c'est déjà une organisation. Il y a donc des choses positives, notamment la question de la lanterne, la question du tarif, la question des permis de fonctionnement, mais je pense qu'il faut même aller au niveau de la fiscalisation, il faut payer les impôts dans, par ces structures-là, toutes ces questions-là, et la question de la transparence des prix, c'est des questions pour lesquelles nous félicitons le ministre par rapport à ce qu'il est en train de faire. Mais je continue à dire qu'il y a un sérieux problème de méthodologie, un sérieux problème d'approche. Il faut toujours se fier aux véritables approches discutées scientifiquement. Et quand on veut parler du droit, il n'y a pas de différence entre le droit et la sociologie. Au contraire, le droit doit être le droit de la société pour encadrer les vrais faits de société. Ça, c'est vrai. Mais si aussi, aujourd'hui, je viens de comprendre que ce n'est pas un débat autour des églises, mais en tout cas aux états de généraux de l'ESU, tout le monde parlait des églises alors qu'il fallait parler des confessions religieuses. Effectivement, dans notre pays, il y a un sérieux problème même de sécurité. Et je peux le dire que les services de sécurité ont suffisamment de données sur les jeux que peuvent jouer les confessions religieuses, notamment Kipilil, Anituri, Otuele, Bazuele, Nord Kifu, dans la zone de Ringetti. Et là, il faut y travailler. Mais encore là aussi, un problème quand on dit que la justice est malade. Non, c'est l'homme congolais qui est malade et la société congolaise. Il faut changer les mentalités de l'homme. C'est pourquoi je parlais ici de la nécessité d'un plan national de cohésion sociale. où on doit avoir la véritable problématique du changement des mentalités, de la justice distributive, ainsi de suite. Alors, par rapport à l'intervenant, il n'y a pas que le problème de chômage. Dans les églises, il y a des riches. Ces églises-là sont parfois financées par des travailleurs qui sont là et qui payent les impôts. Ils sont aussi nombreux. Mais c'est le problème d'abord de l'éducation. Mais aussi, on ne prend pas la question des églises ou des confessions religieuses de manière isolée. Il faut une réforme globale, totale et globalisante où toute la problématique de la création de notre industrie, des milliers de transformations, où l'occupation, évidemment, est l'encadrement.
Merci.
Donc, nous félicitons le ministre pour des initiatives louables qu'il est en train de prendre, mais nous demandons que la méthodologie puisse évoluer, que le ministère se rapproche de l'université. Il faut un dialogue entre ceux qui savent, ceux qui peuvent, ceux qui doivent, et surtout aussi avec ceux qui... Donc nous avons le verbe « savoir », le verbe « devoir », le verbe « pouvoir » et le verbe « vouloir ».
Merci, professeur.
On ne peut pas permettre d'avoir la volonté politique. Je m'excuse, madame, un excellent chauffeur qui sait conduire un véhicule, s'il n'est pas au volant, il ne peut pas changer et faire éviter un accident. Merci.
Alors, très rapidement, vous réagissez hein, au propos du ministre Maître Germain. Soyez concis, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. J'aimerais dire à monsieur le professeur que je veux revenir sur mes propos en disant que la liberté des cultes est un droit fondamental. Et cette liberté est régie par la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant organisation et fonctionnement des associations sans but lucratif. Voilà. Donc, et parmi les réformes projetées, il y a la révision de cette loi. Parce que nous ne pouvons, les États généraux, nous ne sommes pas, au fait, nous ne sommes pas substitués en législateurs. Mais nous reformons et nous allons faire des propositions de réformes. Et ces réformes-là, je vais dire à M. le professeur, là où est, tout le monde va entrer en musique. C'est-à-dire ces réformes projetées, spécialement celles de la révision de la loi 004/2001, ne pourront s'éteindre que sous forme de panel ou atelier, regroupant donc les agents et cadres du ministère de la Justice, le représentant des différentes confessions religieuses, les représentants de mouvements associatifs, les experts de la société civile, le professeur d'université, et afin donc d'essayer de renouveler, c'est-à-dire d'adapter et aussi d'orienter cette loi conformément aux réalités actuelles qui gangrènent notre pays. Donc, parce que le monde évolue, et voilà, donc nos textes aussi doivent évoluer par rapport aux réalités.
Merci. J'ai annoncé en début de cette émission que nous devrions avoir l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia. La réalisation me signale qu'il a éteint son téléphone alors qu'il avait donné son aval pour participer à cette émission. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
C'est M. Yannick Kiyombo depuis Lubumbashi. Dire que le chômage qui est à la base de cette prolifération, je ne partage pas l'avis. À mon humble avis, les causes majeures de cette prolifération des églises en RDC sont entre autres l'État lui-même et la cause principale à travers les attributions en cascade des arrêtés autorisant ces églises à fonctionner par ses services sans au préalable passer à la vérification sur terrain par les techniciens par rapport à la viabilité des dites églises. Deuxièmement, il est certes vrai que dans un communiqué, le ministre a parlé par rapport à tout ce qu'il a dit, mais cette mesure souffre par manque de suivi. L'autorité donne une mesure, il revient maintenant à la base de faire appliquer la mesure. Alors, pour mettre de l'ordre dans ce secteur, l'État doit activer toutes ses batteries.
Alors, Maître Germain, comment vous répondez à cet auditeur?
Merci beaucoup à l'auditeur. Et je veux lui dire que parmi les réformes entreprises par le ministre, il y a aussi cette question de viabilité. Aujourd'hui, l'obtention de la personnalité juridique est conditionnée par la présentation d'un PV d'enquête de viabilité établi par nos inspecteurs au niveau de la deuxième direction de l'association. C'est parmi les résolutions communiquées par le ministre après les travaux de la commission multisectorielle culte et association. Donc c'est une question qui a été résolue et aussi publiée par communiqué au niveau du ministère de la Justice.
On va prendre ce dernier auditeur qui appelle depuis Kabinda, oui je pense Kabinda, dans la province de la Lomami.
Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Cette déclaration du représentant des églises de réveil en RDC est salutaire, car les églises sont devenues une grande entreprise avec des lucratifs. La parole de Dieu est prêchée seulement pour aboutir aux offrandes. Tout cela s'est fait par manque d'emploi pouvant permettre aux gens d'avoir les moyens de survivre. À mon avis, le gouvernement doit prendre la responsabilité de ne plus livrer les arrêtés et autorisations de fonctionnement aux demandeurs qui cherchent à implanter de nouvelles églises.
Alors, toutes nos excuses pour la qualité de la ligne de cet auditeur qui nous appelle depuis Kabinda. Professeur, que faut-il pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Essayez de vous résumer, d'être concis, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Professeur Bissa?
Oui, madame.
Alors, je disais, qu'est-ce qu'il faut pour... Il y a du bruit autour de vous, professeur. Essayez de vous déplacer.
Oui, je viens de me déplacer. Maintenant, ça va bien?
Oui, ça va. Alors, je disais, qu'est-ce qu'il faut pour mettre de l'ordre dans ce secteur? Essayez d'être concis, hein, de vous résumer, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, d'abord, madame, dans un premier temps, à mon avis, il faut que l'État y mette des moyens. Il faut donner au ministère de la Justice les moyens nécessaires. Parce que la plupart du temps dans notre pays, on prend de bonnes résolutions, mais les moyens ne suivent pas. Nous l'avons vu avec les États généraux de dessus. Deuxième chose, il faut que l'équipe qui accompagne le ministre Constant Mutamba, que nous trouvons être plein de bonne volonté, puisse l'aider maintenant dans la capacité de savoir faire, de pouvoir faire et du devoir faire. La volonté qu'il manifeste ne suffit pas à partir du moment où on ne fait pas les choses de manière méthodique à partir des évidences. Ça, c'est la responsabilité aussi de son cabinet. Mais nous le félicitons déjà pour la bonne volonté, pour les initiatives qu'il est en train de prendre, mais la manière de faire doit évoluer.
Merci
pour cela, madame, et bravo à la Radio Capi pour ce débat de la société, dans la société et pour la société.
Merci, professeur Michel Bissa, maître Germain Moupassard, conseiller expert au ministère de la Justice et garde de soi. Avant de vous donner la parole pour conclure, il y a cet auditeur, Pascal Mpiana, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, qui dit obtenir un permis ou avoir une personnalité juridique n'est pas ce qui résout la question de prolifération des églises dans notre pays, mais au contraire, moi je pense qu'améliorer le social et on est bien une solution durable à cette épineuse question. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je crois qu'il a été dit ici que le chômage, c'est l'une des conséquences. C'est l'une des conséquences. Et aussi, encadrer l'octroi même, parce que la personnalité juridique, c'est ça même l'autorisation définitive qui vous donne qualité d'œuvrer ou de travailler comme église ou comme association sans but lucratif. Donc, pour dire qu'il faudrait orienter, encadrer cela, on ne peut pas donner... Il y a des gens qui ont des associations mal-être. Il y a quelqu'un qui se réveille un bon matin, qui fait un plagiat de des statuts et qui vient au ministère, et on doit donner une personnalité juridique. Mais une église qui n'a même pas un lieu de culte et qui vient demander la personnalité juridique. Donc c'est une façon aussi de combattre cette sorte de prolifération. Vous allez trouver, il y a des gens, j'ai vu dans des images, il y a une église qui s'est écroulée parce que les gens étaient en train de dormir là-bas, veiller des prières, mais une église avec juste des tôles et tout ça, et les gens ont perdu la vie là-bas. Donc pour dire que nous devons aussi aider la population. Donc nous devons encadrer cela. L'enquête de viabilité pour l'octroi de la personnalité juridique est très importante. Et nous devons encadrer cela. Donc,
c'est ça votre mot de la fin?
Non, pour conclure.
Pour conclure.
Non, ok, pour conclure, je veux rejoindre le professeur. Disons que nous tous saluons, je crois, l'engagement ferme de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'impulsion qu'il donne pour encadrer et orienter ces secteurs. Et nous voyons ici comment les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, nous pouvons tous dire que voilà, les choses ont changé. Mais les choses continuent à être renouvelées, et nous voulons que le gouvernement puisse l'accompagner en lui donnant le moyen. Ça, je rejoins le professeur. Et aussi, nous sommes là pour recevoir même les ONG internationales. Nous voulons que tout le monde puisse venir pour se conformer, afin de se conformer à la loi. Et nous attendons la résolution des États généraux. Et entre autres, il y a une résolution qui a été 2 ou 3, je peux les citer ici, la révision de la loi 004, qui a déjà présenté ses insuffisances. Et aussi, il y a même quelqu'un qui a proposé...
Deuxièmement, nous sommes à la fin. Hein?
Nous sommes à la fin, mais il y a quelqu'un qui a proposé, deuxièmement, il y a quelqu'un qui a proposé la mise en place d'une office nationale d'identification des ASBL, comme le cas avec le Code des sociétés commerciales aujourd'hui.
Merci, Maître Germain. Josaphat Falaï, le professeur Bissa a raison, ces États généraux n'ont pas tenu compte du caractère social et global de la société. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné, Guy Maté, Arcel Kazourou, John Chibouavoir, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Voka. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la mise en onde, présentation et coordination, qui l'écoutait, Martin Sebou Djangoué, a supervisé ce programme. Restez branchés sur Radio Okapi et bonsoir.